Comme le mois dernier, on revient sur les points saillants du dernier conseil de la MRC du Golfe du Saint-Laurent avec sa directrice générale, Mme Karine Monger. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, Karine, on va revenir sur cette nomination du préfet suppléant. Pour la première fois, si je comprends bien, c'est le préfet de la MRC, donc Darren Jones, qui a choisi son suppléant, comme il a été nommé au suffrage universel, c'est-à-dire par la population. Est-ce que c'est en raison de ça?
C'est exact. Par le passé, dans le fond, avec un préfet coopté, donc le préfet coopté, ça veut dire simplement que parmi les maires qui étaient élus, le conseil, par la suite, allait décider ensemble par une élection qui allait être le préfet, qui allait être le préfet suppléant. Maintenant, avec le préfet qui est élu au suffrage universel, M. Jones nomme. C'est lui qui a la responsabilité de nommer le préfet suppléant.
Et là, le choix s'est arrêté sur Marco Wellman, qui est présentement maire de la municipalité du Gros-Mécatina. C'est aussi un nouveau poste dans ses fonctions de maire. Qu'est-ce qu'on sait sur lui?
Marco, c'est un jeune homme maire de la municipalité de Gros-Mécatina. Mm-hmm. Marco a quand même été conseiller pendant, je crois, définitivement le dernier mandat. Il était conseiller au niveau de la municipalité du Gros-Mécatina, puis il l'avait été aussi par le passé. Donc, c'est pas sa première fois dans le monde municipal. Il y a déjà siégé à titre de conseiller, première fois en tant qu'élu, évidemment, première fois en tant que préfet.
Alors, on est en de bonnes mains. Sinon, deuxième point, la crise du logement. La MRC a mis en place un OBNL intitulé Habitation en basse conteneur. Et là, vous venez de franchir une étape importante.
On n'a pas en basse conteneur d'OMH. Office municipal d'habitation. Donc, voilà pourquoi la création d'un organisme non lucratif. Mais avant ça, ce qu'il faut dire, ce qu'on doit savoir, c'est que, bon, avant de se rendre à la création de l'office municipal d'habitation, on a fait le tour, dans le fond, au niveau de l'habitation, qu'est-ce qui se fait en basse-côte-nord, qu'est-ce qui a été fait, ou plus précisément, c'est quoi les besoins. Donc, qu'est-ce qu'on connaît des gens? Qu'est-ce qu'on connaît des besoins? Est-ce que nos besoins sont pour les jeunes familles? C'est qu'on a fait un petit examen de la situation avec des données qui existaient déjà. Donc, nous, on sait que quelqu'un qui commence dans la vie, par exemple, des jeunes, des appartements, il y en a des fois, il y a certaines communautés où il y en a tout simplement pas, c'est difficile à trouver. En fait, ce qu'on sait aussi en basse-côte-nord, c'est que les personnes âgées restent chez eux le plus longtemps possible. Dans le fond, souvent, on va voir des personnes âgées rester dans leur maison. Quand ils déménagent, quand ils quittent leur maison, c'est pour aller, par exemple, dans un CHSLD ou dans une résidence intermédiaire ou quoi que ce soit. Si on compare à des aînés en ville, souvent, on va voir qu'après un certain moment, les gens n'ont plus nécessairement le goût de couper le gazon ou de pelleter la neige ou de faire les réparations. Ils n'ont plus le goût, plus la capacité non plus. Donc, souvent, ce qu'on va voir en ville, c'est que les gens vont vendre leur maison pour s'en aller soit en appartement ou plutôt dans un condo. Ce qu'on remarque, c'est qu'au début, en fait, pour nos jeunes, puis pour nos personnes âgées, c'est difficile. Puis en même temps, si on était capable, par exemple, d'avoir des appartements pour des personnes âgées, des appartements, comme tu viens de dire, là, pour des personnes âgées autonomes, mais au moins un appartement où on n'a pas de rénovation à faire, où on n'a pas de neige à pelleter, où on n'a pas toutes ces responsabilités-là, bien évidemment que les personnes âgées vendraient leur maison, donc ce qui ouvrirait la porte à nos plus jeunes familles, à nos jeunes qui étaient peut-être en vie. Donc il y aurait une certaine roue qui pourrait tourner, donc plus de possibilités.
Et ce serait quoi la prochaine étape par la suite? Là, vous avez fait une étude de terrain et qu'est-ce qui s'en vient?
Cette étude-là, dans le fond, elle avait trois volets, si on veut. Le premier volet, c'était d'observer puis de tirer un diagnostic de la situation, ce qu'on a fait. La deuxième portion, bien, c'était toute l'OMH, l'Office municipal d'habitation qui n'existe pas. Donc, la création d'un OBNL, la création d'un regroupement, d'un organisme non lucratif qui serait dédié à ça. On est allé aussi un peu plus loin à développer, dans le fond, des plans, carrément, là. Développer un plan. Fait que si on était, si demain matin on était prêt à construire quelque chose ici, ben, ça aurait l'air de quoi? Est-ce qu'on parle, puis là, encore une fois, là, c'est un plan, on débute, là. Ce plan-là, évidemment, ce serait un plan, mais qui serait adaptable. Par exemple, à Tatalabalerne, est-ce qu'on aurait besoin de, je sais pas moi, deux unités? Mère Blanc-Sablon, on aurait besoin de 2 unités, mais à la base, ce serait le même plan. On va travailler avec le même type de bâtiment. Un petit peu, si on regarde du côté du centre de santé, là, pour ceux qui ont visité différentes communautés en Basse-Côte-Nord, ben les bâtiments sont construits sur le même modèle, par exemple. Ou encore les maisons de la commission scolaire, du centre de service scolaire. C'est un petit peu dans le même ordre. Mais par la suite, ça va être d'essayer de trouver des fonds. Souvent, on voit passer peut-être des appels de projets de la Société de l'habitation du Québec, la SAQ. Bon, présentement, il n'y a rien. Le dernier appel de, pour donner une idée aux gens, là, le dernier appel de projet de la SHQ, on faisait appel à des projets de, je pense que c'était de 28 à 44 unités.
Oui, ouais, c'est pas mal.
Ça répond pas à nos besoins, mais aussi, à travers ce projet-là, on était quand même capable d'établir des liens avec la SHQ, puis faire valoir nos réalités territoriales. On n'est pas la seule région du Québec qui cadre difficilement, disons, dans les programmes mur à mur qu'on voit trop souvent passer. On peut penser à des communautés, à des régions comme le Nunavik, le Nord du Québec. Donc, on a réussi à faire valoir ce point-là. On a réussi à établir ou à installer un dialogue qu'on devra alimenter, continuer à alimenter là, dans les prochaines années.
On va y aller avec notre troisième point, Karine. Point assez important, c'est le transport aérien régional. Il y aurait une nouvelle compagnie qui planifie desservir la Basse-Côte-Nord et je pense que c'est une compagnie de la Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas.
Incapable de répondre exactement, je ne sais pas où ils sont basés, le siège social, mais de l'Ouest. On va y aller plus général,
c'est une compagnie de l'Ouest. D'accord. C'est tout ce qu'on sait pour le moment?
Ben, c'est ce qu'on sait. Donc, il y a une compagnie basée dans l'Ouest qui a l'intention, qui voudrait venir desservir la Basse-Côte-Nord. Plus que ça, j'ai pas énormément de détails à vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, pour venir s'installer ici, ben cette compagnie-là voudrait bien avoir accès au même programme de subvention que la compagnie
Air Liaison
qui est ici présentement. Donc, il y a un processus d'application, d'analyse tout au niveau du gouvernement. On en est là, puis là, quand je dis « on », ça exclut la personne qui parle, parce que c'est dans le fond, c'est la compagnie qui doit déposer sa demande et l'analyse sensible, donc on en est là.
D'accord. Finalement, je terminerai avec le Fonds d'initiative sociale du Québec qui est de retour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi ça a été suspendu, puis finalement, c'est de retour?
C'est pas que ça a été suspendu, mais bon, un programme terminé, le programme X terminé à telle date. Puis là, bon, le nouveau programme qui arrivait dans l'année financière suivante. Donc, le temps que tout soit signé, que tout soit dans le fond, que tout soit correct. Il y a eu un petit délai entre les deux programmes, là. Il y a eu un petit délai entre la fin du dernier programme puis la fin de celui-ci, mais là, il est finalement prêt et prêt à recevoir des demandes d'aide financière.
Oui, bien merci beaucoup, Karine, pour ton temps. C'est toujours très apprécié.